Bonjour. Dans la presse du jour, un anniversaire, des commémorations et un compte à rebours.
J-100 pour les JO, J+100 pour Gabriel Attal à Matignon et un hommage présidentiel de plus, célébré hier dans le Vercors en mémoire des maquis de la Résistance. Le Figaro évoque un parcours qui frôle la frénésie mémorielle et reproche à Emmanuel Macron d'exploiter le filon des commémorations. Chacun est dans son rôle, le président et le Figaro. Le Figaro, comme le Parisien et l'équipe, marque le vrai départ de la geste olympique à 100 jours donc, avec des cahiers spéciaux très fournis. Le Parisien raconte en outre la préparation très secrète de la cérémonie d'ouverture avec une interview de son organisateur et le journal dévoile la tenue de ville de nos athlètes, smoking bleu nuit et revers tricolore, fabrication Berluti, comme les souliers, modèle spécial de souliers pour notre basketteur Wemba Nyama qui chausse du 57.
Du 57, ça en fait quand même, des grands pieds. Hein. Et Gabriel Attal, lui, doit porter du Super 100. Le quotidien L'Opinion livre les détails inédits de sa nomination le 9 janvier dernier, et nomination comme Premier ministre et la composition de son gouvernement.
Tout commence par un coup de fil d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Le PR, comme on dit à l'Élysée, le PR envisage de te nommer Premier ministre. Il va te voir, prépare-toi, réfléchis à tes priorités, à ton équipe. Gabriel Attal se prépare, mais ne dit rien, sous peine de passer pour un loser si l'affaire ne se fait pas, écrit Corinne Laïc dans L'Opinion. Le lendemain, Attal voit Macron en secret. Macron ne lui promet rien, mais il parle du futur gouvernement. Faut-il virer les poids lourds, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ? On les garde. Si l'un d'eux est dehors, la concurrence entre eux sera trop difficile à gérer pour le Premier ministre. Attal apprend finalement qu'il est nommé par SMS, alors qu'il est en pleine visio au ministère de l'Éducation nationale. Il apprendra aussi l'arrivée de Rachida Dati, décidée sans lui par Emmanuel Macron. Mais c'est lui, Gabriel Attal, qui devra fermer la porte à François Bayrou, qui voulait l'Éducation nationale, mais qui prétendait y imposer ses vues. Attal a dit niette.
En première page du Monde, deux pays en guerre et un contraste saisissant.
Le quotidien publie deux reportages, l'un à Kiev, l'autre à Jérusalem. On y lit deux attitudes différentes face à la guerre et face à la peur. Les deux titres se cognent et se contredisent. D'un côté, l'étonnante impassibilité de la société israélienne, comme si l'attaque iranienne de samedi n'avait été qu'un mauvais rêve de plus dans le cauchemar qui a commencé le 7 octobre. Après l'attaque, je me suis rendormi et je suis allé au travail le lendemain, témoigne simplement un habitant de Jérusalem. En Ukraine, c'est une vague d'inquiétude et d'amertume qui domine, écrit Le Monde, car l'implication des Occidentaux dans la défense d'Israël contre l'Iran a à la fois démontré son efficacité ce week-end et donné l'impression aux Ukrainiens d'être relégués au second plan. Le Figaro décrit, lui, la stratégie meurtrière des doubles frappes russes, frappes qui ciblent les secouristes quand ils arrivent sur les lieux des bombardements en Ukraine.
Lui a été victime d'une autre stratégie meurtrière, Salman Rushdie, agressé au couteau il y a 2 ans par un fanatique à cause d'une fatwa lancée par les mollahs iraniens en 1989. Il publie cette semaine un nouveau livre.
Il a longtemps vécu reclus sous haute protection. Il est toujours protégé, mais ne se cache plus, c'est peu dire. 3 interviews de lui aujourd'hui sur le site de Libération, dans Le Point de demain, mais l'article est déjà en ligne, et dans Télérama avec son visage éborgné en couverture. Son livre s'appelle « Le couteau ». Le langage peut être cette sorte de couteau, la chose qui permet d'atteindre la vérité, explique Salman Rushdie dans Libération. Je voulais utiliser le pouvoir de la littérature pour répondre à cette attaque. Et dans Télérama, j'ai voulu que le couteau soit un livre sur l'amour des autres et l'amour de la vie, cette vie dont j'ai failli être privé. Comment mène-t-on une vie heureuse et riche? Je me pose la question tous les jours. La réponse est philosophique, mais aussi pratique. Assure-toi de ne pas être négligent vis-à-vis des autres. Appelle ceux qui attendent un coup de fil de toi, car on ne sait jamais. La fin peut survenir n'importe quand.
Télérama l'interroge également sur la crispation du débat public, la tentation de la censure qui monte, y compris dans les démocraties.
Et réponse de Salman Rushdie, c'est inquiétant. Les raisons semblent parfois vertueuses. Ne pas dénigrer un groupe particulier au sein de la population, ne pas heurter les sensibilités. Mais dans une société libérale où beaucoup d'opinions s'expriment, tout le monde peut se sentir offensé par un propos ou un autre. Si se sentir offensé est un argument suffisant, alors plus rien ne peut être dit ni écrit. La volonté de prévenir certains types de discours vient maintenant de la gauche, dit Rushdie, alors que les attaques de la droite, elles, continuent. Bref, la demande de censure vient de toutes les directions. C'est un moment difficile pour les écrivains, dit-il. Les jeunes auteurs se demandent ce qu'ils ont le droit d'écrire. Moi, je suis trop vieux pour m'inquiéter de ces choses, mais je suis heureux de ne pas avoir 23 ans en étant sur le point d'écrire mon premier roman.
Et puisqu'on parle de littérature, une chronique publiée dans le journal L'Opinion a attiré votre attention. Il y est question des Jeux Olympiques.
C'est le billet de Bernard Quirini. Il évoque un livre qui vient de paraître, Les Jeux Olympiques de littérature, et qui explore une dimension oubliée de l'olympisme. Le baron de Coubertin, explique-t-il, était un grand amateur de littérature et d'art, pas seulement de sport, à tel point que les Jeux devaient comporter dans son esprit des concours artistiques en même temps que les épreuves sportives, de manière à unir à nouveau, par les liens d'un légitime mariage d'anciens divorcés, le muscle et l'esprit. Il y eut donc, au JO de Stockholm en 1912, des concours d'architecture, de peinture, de sculpture, de musique et de littérature. À Paris, en 1924, les écrivains du monde entier devaient envoyer une œuvre portant sur le sport en 1000 vers ou 20 000 mots maximum. Monterland fut l'un des concurrents, mais il ne gagna pas. C'est l'obscur poète Géo Charles qui a gagné. Aujourd'hui, il n'y a plus d'épreuves artistiques aux Jeux Olympiques. On pourrait peut-être suggérer de remplacer les commentateurs par des auteurs. Ça relèverait peut-être le niveau.
Je peux vous dire, Hervé Gattegnaud, que Marc Lambron, qui est entré dans le studio il y a 3 minutes, est absolument d'accord avec vous et a bu vos paroles.
C'est notre champion olympique à nous.
On devrait exiger des athlètes qui parlent le grec ancien.
Ah oui.
Sinon, pas de sélection.
Oh là là, c'est plus les Olympiades, là, c'est les 12 travaux d'Astérix. Merci Hervé Gattegnaud, à demain pour la revue de presse. Tout de suite, Esprit Libre, vous en avez eu un aperçu avec Marc Lambron.